boutique du dimanche matin, Tito. Alors, de quel côté? Moi, je suis du côté de la Bastille, toi, tu es de l'autre côté.
Ah ben, sur le coup, à Bastille aussi, parce que finalement, en ces temps, d'ailleurs, avec un Paris qui est tout gris, en ce moment, tu l'as dit, hein, ça fait des fois des bobos à la gorge, mais le Paris gris, ça veut dire aussi beaucoup de choses sur le plan des expositions, des musées et du reste. On n'arrête pas de parler de Leonardo en ce moment, le fameux Léonard de Vinci.
Ah ouais, ce monsieur, il était multiple. Hein.
Après les trésors de Toutankhamon, c'est vraiment l'aventure. Leonardo par-ci, Léonard de Vinci par-là. Et il faut dire qu'il était temps que l'on se penche ben voilà, sur ce génie, sur cette grande figure de l'art universel, et d'ailleurs qui repose en France. Beaucoup ne savaient
oui,
pas.
Oui, qu'on a été chercher en Italie, cher ami.
Et ah, oui.
Voilà, c'est quelqu'un qu'on a été déniché en Italie. Et tu me diras que Von Braun a été le déniché en Allemagne nazie pour aller faire des bombes, mais enfin, ici, c'est les bombes artistiques. Hein.
Alors, artistiques, et puis alors, peut-être d'ailleurs de rappeler, parce qu'il y a eu des expos monstres, on a parlé de l'exposition L'Aventure d'ailleurs égyptienne, Toutankhamon, on a parlé de cela. La France doit à Manou qui a un agenda très chargé, et beaucoup d'auraient d'ailleurs de se demander, concernant le projet Afrique 2020, pourquoi on commençait par le versant anglophone de l'affaire. Bon, c'est un petit peu la querelle qui revient en ce moment un peu partout. La France oublierait-elle l'aspect francophone sur le plan culturel?
Voilà la question qui est posée, mais comme on a peut-être c'est une question de calendrier, hein, ils préfèrent commencer par les extérieurs pour entrer petit à petit vers ce qui nous intéresse. Peut-être, j'ai dit peut-être, j'en sais rien. N'oublie pas qu'il y a eu une exposition à l'ancien musée, là où il y avait la musique, les musiques africaines, aussi bien anglophones que francophones. Hein. Donc c'est peut-être par là qu'ils sont partis, j'en sais rien. L'inspecteur nous en parlera peut-être tout à l'heure, parce que on a évidemment la minute de l'inspecteur Makosa de temps en temps, sur commun.
Ah ben il est avec nous d'ailleurs, mais pourquoi pas tout de suite d'ailleurs. Bonjour inspecteur.
Bonjour, mais je ne savais pas que vous vous intéressez à la Renaissance française et italienne, je suis très surpris.
Ah ben on n'a pas le choix. Oh ben,
on est en France, hein, puis on écoute ce qui se passe autour de nous. Hein, je veux dire, on ne sait pas à quel moment Léonard de Vinci d'ailleurs...
Ben, il a vécu ces 3-4 dernières années ici.
Ouais.
Il est arrivé ici, faut dire, vieux et malade, mais accueilli avec tout ça. Parce que, comme tu expliquais tout à l'heure, il est par moi beaucoup plus ingénieur que peintre, qu'artiste. Dans ces beaucoup de choses, là, il est au moins ingénieur de 5-6 techniques. Sans compter le fait qu'à cette époque-là, peut-être pas pour nous aujourd'hui, la peinture était pas mal vue. La peinture était vue comme une activité un peu inférieure à la sculpture. Donc c'est surtout le sculpteur qui est réussi, c'est l'ingénieur.
Et le monsieur connaissait le muscle. Il analysait, il détaillait, il décortiquait. Il suffit de voir un peu ses épures. Hein.
À ma connaissance, c'est le premier en Europe occidentale à nous donner de façon visuelle toute l'anatomie du corps d'un être humain. Je ne vois pas avant lui qui c'est dans cette partie du monde.
Et c'est intéressant parce que l'inspecteur le dit, il était sur la fin de sa vie, la fin de parcours, mais Don Manou, avoir Léonard de Vinci à côté à la cour de France, ou dans ceux qui étaient dans l'environnement du roi, c'est une sorte de valeur ajoutée, la culture comme une puissance, une arme politique.
Ce qui est rassurant, c'est que malgré tout ce qui se passe autour de nous, Tito, les gens de la culture, quand même, ils travaillent, quoi. Il y a toujours une exposition quelque part, il y a toujours un film qui sort, il y a une activité culturelle permanente. Malgré tous les aléas politiques qu'il peut y avoir, il y a une constance, c'est de mettre toujours la culture quelque part ici.
Alors en tout cas, pour cette exposition qui cartonne ici et là, et puis en plus, ça se déroule du côté du Louvre, et il faut pas du tout avoir peur d'y aller, on a parlé d'un peu plus de 250 000 personnes, alors que l'exposition s'est ouverte il n'y a pas très longtemps, et ce sera l'occasion d'ailleurs de voir d'autres œuvres de Léonard de Vinci. On a d'ailleurs pas mis la Joconde dans la brochure.
Pour changer
un petit peu, la Joconde a été mise un petit peu à part, disait donc le commissaire de l'exposition, qui avait préféré, lui, s'arrêter sur d'autres portraits qu'il aura fait, notamment le portrait d'une dame de la cour de Milan, qui est sur la pochette donc de cette exposition.
Mona Lisa. C'est Nat King Cole qui passe par là. Lui aussi, il avait sa Joconde.
Et avant qu'on revienne d'ailleurs à Grand Calais, ce coup-ci versant un fric intime et donc Gonzalo, l'inspecteur vient toujours les bras chargés. Il est à peine entré que j'ai essayé d'ailleurs de lui soutirer ces deux ouvrages. Et il y en a un qui a été, déjà par rapport au visuel et à la photo, qui a été comme une claque. Raphaël Elono, Afanda Bilunga, le destin tracé d'un petit seigneur de la forêt, le tome 1.
Oui, celui-là je l'ai amené parce que j'ai vu au spectacle de Manu Dibango l'autre jour qu'il a fait venir un percussionniste qui jouait les troncs percés. Ben, vous avez là à peu près la famille des gens qui ont inventé entre le Sud Cameroun, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Ce monsieur raconte l'enfance de son père à partir des années 1880, c'est-à-dire à partir de l'arrivée des Allemands au Cameroun. J'ai pensé qu'il dit, bon, ouais, tellement, c'est tellement volontaire de cette partie du monde que j'ai pensé vous l'amener, parce qu'il raconte sur 6-8 hommes comment les Kramnés sont devenus Allemands. En musique, en religion, à partir de la forêt, comme est le poste de Yaoundé, qui va devenir la capitale que vous connaissez.
Alors, l'inspecteur est malin, très, très malin.
À notre bénéfice.
Non, mais j'ai des après-midi, j'arrive chez lui. Alors, on parle, et négligemment, hein, apparemment, hein, et il a préparé quelque chose, un bouquin, à portée de main, je suis obligé de jeter un coup d'œil. Il est malin, ce gars-là, c'est pas possible. Et du coup, on discute avec Charles, comment il s'appelle l'homme au
doigt. Fire-tongue.
Voilà. On discute, et puis forcément, il y a une musique assico derrière, ou des musiques pygmées derrière, un fond, et il y a le bouquin qui m'interpelle. Alors, moi aussi, je réagis. Ben, tiens, viens nous parler du bouquin, comme ça, on n'en parle plus.
Mais pour le pitcher, c'est le tome 1 d'un roman, et c'est un roman dans lequel il plonge dans son histoire, parce que le héros est son grand-père maternel,
voilà.
Qui est né au début de la colonisation allemande, un père féticheur que les missionnaires colons vont essayer de combattre pour qu'il arrête son métier. Et ça, c'est un contexte qui, quand même, il faut le dire, est un contexte douloureux aussi. On n'en parle pas assez dans l'histoire.
Ah, lui, il le dit, hein. Il est dans le livre, il est assez brutal avec ça. Comme on dit,
il prend pas. Il y a eu des pendaisons et tout ça,
Non, lui, il explique tout ça, tranquillement. Mais comme c'est un roman biographique, hein. Là, c'est le premier temps, il va en avoir 6 ou 8 comme ça. Alors, je sais pas, quelqu'un va se fatiguer.
Et il se réfugie dans la forêt, d'ailleurs, d'où peut-être le nom, petit seigneur, de oui, la
parce
forêt.
Que, parce que selon les entrées et les sorties des Blancs, des Anglais, des Espagnols, etc., ils apprennent à connaître ces gens-là. Parce que les Allemands sont les derniers, mais ça, Dibango va te l'expliquer. C'est les tout derniers, les Allemands.
C'est les derniers avec le Togo, parce qu'ils sont pas restés qu'au Cameroun, ils sont partis au Togo.
Ils nous intéressent parce que ce sont les derniers Blancs arrivés chez nous. Et que c'est ceux-là, comme tu sais, comme Dibango l'explique très 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 souvent, c'est avec ceux-là qu'on s'est habitué, par exemple parce que vous appelez le chant choral, la musique symphonique, etc. Mais là, on est vraiment au tout début des gens que nous, on va apprendre à hériter, parce que quand ils te parlent de troncs percés, moi j'imagine que les troncs percés existaient dans cette zone-là, bien avant l'arrivée des Allemands.
Bien sûr.
Mais ils te disent à partir de quand on met tout ça à l'église, à partir de quand on l'écrit.
Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que l'auteur parle de lui et de sa trajectoire, qui va dire, ben voilà, moi je suis le fils de celui qui finalement ira et fuira jusque dans la forêt, et lui, Raphaël Elono, finalement fera ses écoles, ira à l'école, la mission catholique, viendra en France pour parfaire ses études,
ouais.
Mais ce qu'il y a de plutôt d'ailleurs émouvant même et intéressant, c'est qu'il se souvient.
Oui.
Comme disent bien, les amis, les Québécois.
Parce que le tome, il est bien épais, hein, en fait. Est-ce qu'on le trouve en commerce ou bien il faut... comment ça se fait, ça?
Ça, c'est venu d'une demande... c'est une amie qui travaille sur une radio concurrente, qui m'a dit que cette personne l'a contactée parce qu'elle connaît qu'on a des racines communes au niveau culturel, en disant qu'il aimerait avoir quelque part pour raconter les débuts du christianisme allemand chez nous et les musiques allemandes. J'ai dit, mais écoutez, moi je connais quelqu'un qui... Donc je ne vais pas faire la publicité d'une autre radio, mais c'est arrivé dans la bibliothèque d'une amie à Radio Nova.
Ah ben il faut le dire,
il faut le dire quand même.
C'est, donc c'est ma compagne, la rédactrice en chef de Radio Nova, qui m'a dit, il y a quelqu'un qui a mis ça tout le temps pour travailler, il s'invite, il parle, mais il dit, bon ben je lui ai demandé de m'envoyer les 7-8 exemplaires, ça c'est le tout premier, parce que eux, ils enregistre partout, ils voyagent et ils le diffusent. Donc ils en ont fait.
Tito et moi, à un moment donné, si le monsieur est dans les parages.
Ah ben oui, il faut d'ailleurs, et on le salue, Raphaël Elono, c'est aux éditions Edilivre. La première, d'ailleurs, le premier chapitre d'un Manu, c'est vraiment une claque. Un col Mengosa 1880.
Voilà. Ah ouais, voilà.
Donc
voilà,
il a plutôt été fouillé très loin. En attendant les autres tomes et en attendant qu'ils viennent nous voir. Et alors il y a un ouvrage, au moment où on parle de ce débat sur l'esclavage et tout ce qu'il a encore d'ailleurs, et
encore et toujours, encore et toujours, encore et jamais et en toujours. Profondeur, jamais en profondeur.
L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations? Ouais. Ça, c'est quand même aussi un sacré morceau, un spectacle, parce que alors quand là, on regarde, oui. C'est tout le débat qui secoue et la toile, et la télé, et la société française surtout.
Et celui de tout à l'heure, il date de cette année d'octobre, hein. Mm-hmm. Celui s'est sorti l'année dernière en 2018, qui réunissait tous les psychiatres, tous les psychologues cliniciens, tous les psychanalystes qui ont un parent africain. Donc c'est deux psychiatres martiniquais et guadeloupéens qui l'ont fait, mais ils ont réuni à peu près sur toute la Terre, tous leurs collègues peuvent parler des Caraïbes, de l'Afrique noire et des États-Unis. Pour moi, je considère que c'est une encyclopédie parce qu'ils abordent à peu près toutes les questions que tu peux te poser dans la tête et surtout tout ce que tu as lu. Si tu as lu des Africains, des Antillais, comme tout le monde, que tu as lu les Césaires, les premières Africaines, il revient là-dessus, à peu près sur chaque page, et te donne l'état de nos connaissances aujourd'hui, que ce soit donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique, et dans surtout ce que nous appelons en médecine aujourd'hui la traumatologie.
Ben moi j'espère, inspecteur, que justement cette année de l'Afrique va permettre peut-être l'éclosion de la vision, de ces visions-là, beaucoup plus en profondeur que tout ce qu'on nous sert d'habitude, esclavage là, premier degré, quoi.
Ah, mais ça, il suffit que.
Non, on en parle.
Monsieur Boisa, monsieur Dibango décide ce complot parce que cette année, c'est le centenaire.
Oui.
Je vous ai dit de la réminiscence et c'est le centenaire du premier congrès panafricain. Donc, si c'est des raisons qu'il vous fallait.
En glissant d'ailleurs Stéphanie Hartmann, mais surtout Francis Laloupeau. Parce que quand on en parle, c'est vrai, Harlem Renaissance, c'est pas loin. Quand on dit le centenaire pour nos frères qui nous écoutent aux États-Unis ou ailleurs, Serge Billet, d'ailleurs, doit revenir dans le coin parce qu'il est en train de finir.
Il aurait peut-être l'occasion, d'ailleurs, de réunir tout ce monde-là.
De réunir et de l'opérer sur cette question.
L'inspecteur et puis Francis.
J'ai vu Billet la dernière fois.
Oui, les retrouvailles.
Oui. Pendant qu'on y est, vendredi et samedi, Présence africaine fête ses 70 ans et il doit avoir des séries, des conférences tout ce week-end. Qui nous raconte non seulement lui, parce que le président africain, c'est un enfant de la Renaissance.
En pensant à Madame Diop.
Voilà, donc vous avez deux jours organisés par Madame Diop et les rares qui sont vivants aujourd'hui pour qu'on revise, qu'on voit ce qu'on a appris, ce qui nous a resté, ce qu'on a oublié et qu'est-ce qui est passé de mode. Donc ça, c'est vendredi et samedi.
Ok. Une réflexion, alors, idem campus pour les éditions, l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations, sous la direction d'Aimé Charles Nicolas et Benjamin Bowser. C'est un ouvrage, alors on dit toujours collectif. Ça paraît épais,
oui.
Mais des fois c'est épais pour le bien.
Oui, de toute façon, tous les gens qui sont penchés là-dessus, c'est pas des petits bras, quoi.
Bah, on a tous les pays de la Caraïbe, le Brésil, les États-Unis, toute la Caraïbe, et surtout deux ou trois pays africains qui sont très importants, comme vous le savez, dans l'histoire de l'esclavage. C'est un monsieur qui est historien et psychologue qui vient du Dahomey, ce qu'on appelle le Bénin aujourd'hui, et l'autre qui vient du Royaume Congo. Donc vous avez là les deux pays qui ont fait la plus grande influence culturelle dans les îles, mais qui sont aujourd'hui appelés par les néo-africains, les afro-descendants, pour faire ce bilan. Ce bilan général, je conseille que c'est une encyclopédie parce que en 1961, j'en ai parlé ici, il y a une lettre de Dubois qui demandait à Charles-André Julien, le premier enseignant de l'histoire africaine, c'est à la Sorbonne en 61, à quand une encyclopédie africaine? Je pense qu'elle vient peu tard, mais c'est celle-là.
Eh ben voilà.
C'est un sacré.
La minute de l'inspecteur.
Et c'est plus qu'une minute. D'ailleurs, oui. Hugo nous fait signe, on va passer par une petite page de réclame et revenir après pour replonger dans Grand Calais. Et donc, Gonzalo, qui est cet immigré qui arrive ici, et là encore, il pourra nous parler de cette immigration d'ailleurs de l'époque.
Oui.
Le dimanche, c'est Mandy Bango
sur Africa Radio.
Et sur Africa Radio, Doamanou, nous avons eu les éclairages de l'inspecteur Makossa avec des ouvrages, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des choses qu'on ne peut pas aller piocher que sur le net. Alors, chers internautes, avec votre clic, allez dans les librairies.
Et nous sommes heureux, nous, de temps en temps, à travers des pièces de musique, de vous parler un peu culture. pour en savoir plus sur ce genre de ce que nous vous proposons. Peut-être que Francis Laloupou peut développer ça plus tard avec l'inspecteur et tout ça, parce que là, c'est vraiment la minute de l'inspecteur. Mais c'est vous aussi pour vous donner envie et pour que vous sachiez quand même que ben, on parle rarement de l'Afrique à un certain niveau, que ce niveau-là est intéressant également.
Il est ô combien. Et puis on nous écoute sur la radio, on nous écoute un peu partout, sur les 411.fm à Abidjan, 107.5fm à Paris, en DAB+ à Strasbourg, à Lyon, à Lille, mais on nous écoute aussi pas loin de Amanou, puisqu'il faut bien trouver de la place pour se garer lorsqu'on est dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. Et nous avons enfin réussi à emmener à côté de nous quelqu'un qui est notre ange gardien, parce qu'on le croise toujours au moment où on va vers le parking. Et il est venu en vrai.
Voilà un jeune petit Togolais que je connais depuis à chaque fois que je gare. Bonjour, tonton Manu. Ça va? Et on commence à discuter et puis je vois qu'il s'intéresse à la chose musicale, entre autres. Bonjour.
Bonjour, tonton Manu.
Alors, nom et prénom?
C'est Georges Hadi.
Eh oui, Hadi. Alors non, on connaît des Hadi. Ici, on connaît des Hadi comme Lan et autres.
Oui.
Ça fleure bon le Togo.
Oui,
au Togo, tout le monde est mélomane d'ailleurs. Hein.
Oui.
Voilà. Alors le lien avec le Togo et Doyamanou, évidemment, commence par une très grande voix.
Ah ouais, Bella Bello. Entre autres.
Oui. En disant que c'est la question d'ailleurs, Georges, pour te la poser comme ça. Bella Bello, ça a l'air lointain pour des gens qui nous écoutent à Paris ou ailleurs.
Oui.
Au Togo, on n'ouvre pas une radio un seul jour si on plage la bande FM sans qu'elle passe.
Voilà, voilà. C'est la dame qui a vraiment marqué le Togo.
Et s'il y avait un morceau de Bella Bello dont tu te souviens, qui est ton morceau? Ah, le choix est difficile.
C'est très difficile. C'est très difficile.
Mais en dehors du parking, alors, qu'est-ce que tu fais normalement?
Je fais aussi je suis artiste peintre aussi.
Et ah ben voilà la clé.
D'où un fameux tableau d'ailleurs.
Voilà. Et le jeune homme est parti en vacances chez lui un jour. quand il rentre, il revient avec un tableau. Il m'offre le tableau. Je dis, ah comment? C'est pas possible. Donc il s'intéressait également. Et il m'a pas dit qu'il était peintre lui-même.
Il a emmené le tableau d'un autre artiste, dont on peut dire le nom hein, d'ailleurs. Hein.
Voilà, c'est Adavi.
Oui, qui est vraiment brillant et qui a fait une très très belle toile. Le Togo, on ne parle pas assez d'ailleurs de cet aspect, mais il y a beaucoup d'endroits où les peintres... D'ailleurs, il y a des sculpteurs sur sable aussi,
voilà,
qui sont très forts sur la plage de Lomé.
Oui, oui, oui.
Ben, la prochaine fois, tu sais, quand tu vas là-bas, tu vas nous les photographier.
D'accord.
Hein, les peintures, finalement, éphémères, du coup.
Mais oui, sur le coup.
Et puis nous ramener ça, et puis on profitera pour parler de cet aspect de l'art. Il n'y a pas que la musique au Togo, hein, il y a aussi la sculpture.
Oui.
Alors, il y a un hôtel qui est quand même assez particulier aussi à Lomé, c'est l'hôtel Edaoba, d'Hilaire Lokodonou, qui lui aussi est un peintre. C'est-à-dire, c'est un chef d'entreprise qui a monté un hôtel qui est un peintre d'Oyamanou, et il s'est, c'est le cas de le dire, il s'est libéré sur son ouvrage.
Galerie et autres. Tout l'hôtel, c'est une galerie.
Voilà, et il fait même un festival de musique à l'intérieur de l'hôtel, les Lokwa Kanze et tout sont passés, et où Pierre Akendenge même aussi est passé. Donc, c'est un patron qui est multicarte.
Ah, c'est bien ça. Eh ben, s'il nous écoute, le bonjour, hein. Et puis, on sait jamais, un jour, 16 mesures de saxo.
au niveau de
l'hôtel musée, hein. Ça peut, je fais pas ma publicité, mais si, quand même, j'en fais. Allez,
On salue d'ailleurs Michel Colani, le fouteux de l'antenne, qui va nous dire, oui, il y a plein de choses, et puis il y a aussi les Evala. Ces fameuses compétitions de lutte qui se déroulent. Et oui, qui se déroulent dans le nord du pays, souvent au mois de juillet, d'ailleurs, hein.
Oui, je pense.
Il n'y a pas que la lutte sénégalaise. Voilà pour
mais on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des Togolais chez nous ici, hein, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, est-ce qu'ils écoutent la radio?
Ils écoutent beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'ils passent souvent du côté de nos amis allemands, anglais, ont beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'artistes qui vont par là-bas.
Moi j'en vois souvent à Wolfsburg, des artistes que tu verras jamais ici, mais qui passent par Wolfsburg.
Clin d'œil à King Mensa, à Kabaraka, Papavi, qui lui par contre connaît la maison. Et alors au pays de Don Gonzalo, Doyamanou, parce qu'il fallait qu'on s'arrête et qu'on revienne à notre homme, Eh bien, c'est une autre aventure, celle de l'African Team. Et on le dit, l'African Team, ben, c'est le Grand Calais qui continue son expérimentation avec des musiciens encore d'un peu partout.
Alors moi, je l'appelle le retour, hein, le comeback. Parce que 7 ans ont passé, on s'est vu dans les années 60 au début. On s'est séparés vers 63, comme ça, je suis allé au Cameroun, j'ai fait une autre aventure, lui il a continué son aventure, des aventures, les orchestres se sont multipliés, les Afrisa et tout ça. Et puis voilà qu'un jour, Kabasele en 67, il débarque à Paris. Alors, donc c'est un autre Kabasele, et nous nous trouvons dans des boîtes. Par hasard, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai rencontré, parce qu'il n'avait pas mon adresse. On s'est rencontré au Black and White. Le premier Black and White de ce nom-là, c'était à la rue de Rennes. Et c'était Samba et Kane qui se sont séparés après pour avoir le Black and White Lombard. Et puis Kane en haut, aux Champs-Élysées. Mais le premier, il avait deux orchestres. Il y avait l'orchestre de Don Gonzalo et l'orchestre de Nino Ferrer.
Ah ben dis donc,
mais voilà, donc il changeait d'orchestre tous les je sais pas combien, mais quand nous sommes arrivés, c'est Gonzalo, et naturellement, Kabasele et moi, entre deux verres, on rêve, et Calais dit, ah ce serait bien, entre ce rêve et la réalité, donc de faire un new look, un African Jazz New Look, mais cette fois-ci, ce n'est plus l'African Jazz, c'est l'African Team, avec d'autres musiciens, avec les Bukilo et tout ça, et surtout avec des Cubains. C'est la première fois qu'on avait vraiment des orchestres, des musiciens cubains, et à la tête de ces Cubains, et avec Don Gonzalo.
Don Gonzalo, indissociable d'un instrument qu'il tient à la main. Je me souviens de cette pochette avec Kabasele sous son casque, un casque très moderne. Don Gonzalo, une cigarette au bec, il faut quand même le faire, il n'est pas la loi Evin.
Il n'y avait pas encore.
Et une flûte. Alors quand on regarde la flûte de Amanou, cette flûte... Ça, on sait que ça a été travaillé à la main. Hein.
Oui, c'est une flûte en ébène, hein. C'est une flûte en bois, donc. Hein. Et toutes les autres flûtes qu'on a maintenant sont des flûtes métalliques. Mais les vraies flûtes cubaines, c'est des flûtes en bois. Et tu entends le son, on dirait un pique-bœuf, quoi. Le son est précis, c'est une approche cubaine, en tout cas de la flûte occidentale, parce que les gammes sont les mêmes, tout ce que tu veux, mais le matériau de départ n'est pas le même. Et donc ça a une sonorité assez spéciale qui convient à la musique, aux musiques cubaines. Donc on a sympathisé, évidemment, on a bu un pot, et puis l'idée, Calais, il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire un truc, une rencontre finalement, c'est, si tu veux, c'est Cuba-Africa avant la lettre.
Et oui, bien avant.
Voilà, donc de prendre le répertoire Lingala de Kabasele avec des arrangements qui venaient de Cuba. Et Dieu seul sait que Gonzalo était, il a une plume extraordinaire. Il avait l'orchestre La Charanga, la fameuse Charanga, qui déboulait à Paris, donc des violons très sophistiqués, une écriture qui convenait pour habiller la musique de Kabasele. Et voilà comment cette histoire-là, on a eu deux volumes de ça d'ailleurs. Voilà comment cette histoire est née. Et donc il y avait dans l'orchestre, il y avait des Africains, un peu de tout d'horizon, et puis il y avait des musiciens cubains. Alors ces musiciens cubains, ce sont des musiciens qui sont arrivés dans les années 50 dans des grands orchestres et qui étaient un tout petit peu itinérants. Il y en a qui sont restés en Belgique, il y en a qui sont restés à Amsterdam, et des gens comme Tito Ernesto, oui, sont arrivés à Paris, ils sont restés à Paris. Et Gonzalo est arrivé un tout petit peu comme les Rico Jazz qui faisaient le tour de l'Afrique. Et il y en a qui s'arrêtaient au Cameroun et se mariaient. Il y en a qui continuaient. Tu vois, c'est un peu les saltimbanques itinérants dans nos musiques. Les Américains ont fait la même chose. Hein. Je veux dire, voilà, il y a un voyage que les musiciens font. Et ils s'assient là où ils sont confortables, soit qu'ils ont rencontré l'âme sœur, soit qu'ils ont rencontré le boulot, enfin, soit qu'ils sont à l'aise là où ils sont. Et Gonzalo était à l'aise à Paris, et ma foi, comme arrangeur et comme interprète.
Et c'est un clin d'œil à tonton Freddy Nkunku, qui lui était resté du côté des Antilles,
oui,
avec tantine Jeanne d'ailleurs, la Marie Galantaise. Et pour revenir à l'histoire d'ailleurs de Kabasele, tu le disais, une période un peu douloureuse, qui a eu une tournée triomphale en Afrique de l'Ouest en 63, où beaucoup de musiciens étaient sortis du bateau. Il avait été abandonné par par-là, il y a un revival incroyable, parce qu'au sommet de l'OUA à Kinshasa en 67, Kabasele va offrir un 45 tours à chaque chef d'État. Donc il était toujours dans cette idée d'une trouvaille de faire avancer les choses. Mais le génie, c'est quand même de prendre des ingrédients et pas des moindres. Il y a toi, il y a Don Gonzalo, il y a Jean-Serge Essou qui lui aussi, entre-temps, a décidé de faire un crochet par là.
Voilà.
Et les deux volumes dont tu parles, c'est des volumes où on retrouve une énergie. Alors vraiment une énergie à revendre.
Ah ouais, je veux dire que la musique... du Congo rehaussé par les arrangements, parce que il faut pas oublier que c'était écrit tout ça et que Gonzalo écoutait et l'inspiration venait des thèmes, des harmonies que procuraient donc les mélodies, si bien qu'on est, on s'est retrouvé avec un matériau non seulement commercial mais très noble et très bien ficelé et musicalement parlant rien à dire.
Et vraiment rien à dire, parce que lorsqu'on écoute les titres qui sont extraits de cette aventure de Grand Calais et l'African Team, en commençant par Cococo, qui est là, qui a été tellement repris, on se dit que là, c'est une musique pensée, parce qu'en même temps, de Amanou, vous étiez chacun respectivement arrivé à une maturité artistique.
Et puis en plus, on était les uns et les autres, en fait certains d'entre nous, des arrangeurs, on amenait les arrangements, non plus des morceaux, uniquement des morceaux, mais des arrangements. Et Gonzalo, il a arrangé certains, même moi j'ai arrangé, par exemple, Africa Bougalou.
Bougalou.
Voilà, ça c'est mon apport, ça. Et puis, alors, il y a Valentina, voilà, Charanga in Paris, on ne pouvait pas mieux faire.
Ah oui, hein? Et d'autant, on dirait presque une musique de film, ce Charanga in Paris. Pour le dire avec l'accent, parce que ça chantait aussi en espagnol sur le coup.
Ben, il y avait les deux, du coup, ça se mélangeait tellement. En fait, quelque part, encore une fois, c'est une espèce de retour du bateau. Hein. Autant on aimait la musique cubaine dans notre bassin du Congo, là, et de l'Afrique centrale, autant cette fois-ci, ce sont plus des sons et des dansons, c'est quand même la musique contemporaine, les charangas et tout ça, mais fait par des musiciens de cette époque. Ce n'est plus les souvenirs des Matamoros et tout ça, ce sont vraiment des musiciens contemporains. Bonbon, par exemple, le percussionniste qui est dans Cococo, il a travaillé longtemps avec Claude François, et on a fait des balles ensemble. Ça fait partie des Cubains qui sont restés donc à Paris, et qui ont fait, et qui ont fini, une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs, ont fini leur vie ici à Paris, hein. Un tout petit peu, évidemment, comme les Sidney Bechet qui sont venus avant-guerre et tout ça, c'est exactement la même chose, hein. Ils ont fini leur vie ici, et Gonzalo, lui, non. Il est reparti, et malheureusement, il a disparu chez lui.
Et en parlant du son et de l'enregistrement, vous allez écouter le morceau Congo Soyo. Et on se dit, si on le met en studio aujourd'hui en 2019, les ingé-sons vont vraiment baisser le chapeau. Parce que là, on entend les voix d'un côté, les instruments. C'est là où on parlait de maturité. Dans Amanou, je ne sais pas, vous avez enregistré d'ailleurs ce disque.
C'était chez Deka, c'est l'époque d'or, en tout cas des studios, 24 pistes, le 24, oh, ça ne vous dira rien maintenant aux enfants. Mais c'était sur des grosses bandes comme ça. Le 24 pistes venait d'arriver, on inaugurait ça, tous les studios qui passaient donc de 8 pistes aux 16 pistes et du 16 pistes aux 24 pistes. C'est-à-dire, on était à l'aise, il n'y avait pas besoin de sampler des choses. Et donc, la musique était tellement aéré et les gens qui écrivaient cette musique-là tenaient compte du nombre de pistes et de l'aisance des uns et des autres pour ne pas se marcher sur les pieds.
Et avec respect. En tout cas, on va écouter tous ces titres annoncés dans ce jukebox lancé par Hugo. Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
On est là, la bière, et elle veut tout le temps la bière.
Ça va danser un peu l'eau, mais là.
Ah, oui.
Et pas y'a babette, donc t'es pas babette, hein.
Ah, t'es.
Qui est là?
C'est Gonzalo qui arrive.
Oh, oh, oh,
là, oh. Bienvenue.
Donc pas y'a babette, la babette.
Ah, dis.
dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
Oh,
Celle de l'African Team de Amanou avec un grand calais à la baguette. Normalement, je me souvenais plutôt des coupes de cheveux et des costumes. C'était l'école pelle à tarte. Mon père appelait ça comme ça.
Non, les gens, c'est l'époque où on s'habillait quand même avec classe. Calais a eu la classe toute sa vie. Enfin, tout ce que moi j'ai connu, c'était un monsieur qui avait la classe. Hein. Franco, lui, c'était la Bacoste. Hein, il avait choisi son camp. Et puis, ma foi, Gonzalo m'a donné l'envie, parce que c'est à la suite de ça qu'il y a eu les Franklin Bukaka, les violons, quand les violons... Et c'est la première fois que les violons entrent, en fait, dans la musique africaine.
Et c'est vrai qu'en parlant de la musique, c'était tout un univers. J'ai ressorti la pochette de Amanou, parce que c'est une pochette où on voit un grand calais très heureux.
Et moi, j'étais pas loin.
Alors, tu étais juste derrière.
Juste derrière.
Alors, l'allure de Gonzalo, c'est un personnage
paye,
de
hein.
film.
Ça paye, hein.
C'est un personnage de film, comme je le disais tout à l'heure, clope au bec, sûr de lui. Et ça montre aussi la manière dont les deux parties, d'ailleurs, les deux rives se rapprochent. Est-ce qu'on peut parler de la herencia africana de ce côté-là?
Oui, oui.
C'est ça, l'inspecteur.
Ça va très, très loin, parce que là, on parle musique. Mais souvenez-vous, surtout vous, Africains, on doit beaucoup, beaucoup aux Cubains. Certains Cubains m'ont dit en privé, que nous, Africains, on leur doit beaucoup, surtout après les sacrifices qu'ils ont faits pour l'Angola et le Mozambique. Et c'est vrai, pour l'instant, je ne vois pas ce qu'on leur a rendu.
C'est un rendu, ça. Ce disque-là, c'est une espèce de rendu, parce qu'on respecte, chacun se respecte. Et là, vraiment, c'est une rencontre, comme il y a eu très peu, en fait, à ce niveau-là, des rencontres entre deux musiques fortes et qu'on associe, mais autour de la même chose, c'est-à-dire la clave. C'est la clave qui nous unit, le tac, 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 tac. Mmh. C'est l'unité de toutes ces couleurs qui viennent après, que ce soit le bateau, que ce soit nous, c'est la clave. Et jusqu'à James Brown, d'ailleurs, tu es au bout d'Idley quand tu entends le jack, jack, jack.
J'ai connu quelqu'un qui appelait ça le Sipi Code.
Oui, oui, c'est possible, oui, oui. Call up people time.
Un clin d'œil d'ailleurs au maestro Bankalamaega, qui, à mon avis, doit toujours avoir ces deux volumes de Grand Calais, oui. Et puis donc Gonzalo, l'African Team. Deux titres inévitables, un titre où on aime écouter le Douamanou chanter. Alors, tu aimes bien dire, ma voix, dis donc.
Ouais, mon regret, c'est que j'ai pas fait carrière comme chanteur quand même. Bon, j'ai pas la fibre, mais j'ai la voix quand même. Alors, Kara Kara, c'est un truc que j'ai composé en 45, en 65. Je rentrais du Cameroun et les ailes. Ça a été le premier disque que j'ai fait. Il y a deux versions de ce morceau-là. Il y a cette version, la mienne, au chez Philips, et la deuxième version, quand Kabasele me demandait, dis donc, Manu, donne-moi un peu des trucs là. Hein, voilà, et Jeannot Di Koto lui avait donné Miango, Miango, Ma Paris, Mibukune Moto, Langua. Donc il prenait vraiment, et ça ne le dérangeait pas de prendre des morceaux des autres parce que c'était pour les mettre en valeur.
Et avec humilité.
Voilà, c'était pas la mentalité que oh, il m'a piqué la chanson.
Volé.
Non, non, ce n'était pas ça. C'est l'interprète normal, comme Sinatra demandait des trucs, comme n'importe qui demandait des voix, des trucs. Je t'ai parlé la dernière fois de Mamaya Mofanga Civilisé. Ben, c'est un vieux morceau, Whisky Soda.
Aussi.
Ce sont des vieux morceaux qui viennent de Guinée. Donc, c'était des standards pour nous. Donc, Kara Kara, voilà. Et puis alors. Oh, on aurait pu jouer les Sous Spiritu, les Africa d'ambiance, c'est-à-dire Banaya Congo, na Cuba,
oui.
La rencontre du coup. Hein. Mais on a choisi Safari Mouzouri parce que là aussi il y a une belle écriture.
Et puis surtout un des morceaux préférés de nos amis du côté du Kenya, ce Safari Mouzouri, on le joue même jusqu'à aujourd'hui dans les fameux pick-up qui emmènent les touristes à l'intérieur des terres.
Eh ben Mouzouri, Mouzouri.
Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
Na keibari, kota la. sur Africa Radio.
De Manu Dibango
sur Africa Radio.
Seigneur Grand Calais, l'African Jazz et l'African Team.
Oui, la bonne rencontre. Donc, on a eu le cabacelli traditionnel, et puis on a vu l'ascension, puis on a vu donc les années après, l'African Jazz devenir l'African Team. Quel parcours? Et là, on a joué qu'une petite partie de la librairie musicale de Kabasele, parce qu'il y en a d'autres. On pourrait faire encore des émissions et des émissions, vous pouvez encore découvrir des trésors. Et c'est bien ainsi, parce que ça veut dire que tous ces gens-là étaient prolifiques.
Et le Grand Calais est parti faire le bœuf au paradis à 11 février 83. Il avait 52 printemps. C'est un artiste qui est parti tôt, mais en tout cas, dans la mémoire, rayonne encore.
Comme d'habitude, longtemps, longtemps.
Après que les poètes aient disparu. Et
la chanson court toujours.
Dans nos rues.
Vous avez bien dit 83.
Oui.
Mais 83. Et ce n'est pas l'année de Lisanga Yabanganga.
Justement, et au moment de la rencontre, comme on l'a évoqué la semaine dernière, de Franco et Rochero, c'est à ce moment-là qu'ils s'accordent.
C'est pour ça, parce que je vous ai entendu que j'y reviens.
Oui, mais c'est l'année de
l'autre sort
par là.
Voilà.
Et c'est déjà la fin de cette émission pour aujourd'hui, Doyen Manouf.
Malheureusement, on est toujours triste de vous quitter, mais content de se dire que la semaine prochaine, on remettra ça.
On remettra le couvert, il sera 9h en temps universel et il sera 10h à Paris sur les 107.5 FM.
Voilà, et puis on a reçu un jeune aujourd'hui, peintre.
Georges Hadi, on lui dit Akpé et il nous amènera ses toiles et ses œuvres. Il a intérêt, Akpé et Nassom Dita aussi, à l'inspecteur Makossa pour ses deux ouvrages et les éclairages.
La minute de l'inspecteur.
Sous l'œil et sous la manette d'Hugo, que l'on remercie.
Voilà, donc... Évidemment, rendez-vous à la semaine prochaine et comme d'habitude...